Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je continue la troisième mission donnée aux apôtres, à savoir, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. J'intitulerai ce sermon « Perfection personnelle et liberté ». C'est-à-dire que la hiérarchie doit nourrir la perfection personnelle des sujets, et non pas chercher son propre intérêt, à elle la hiérarchie, et elle doit nourrir également leur liberté, et non pas s'imposer à eux. Rappelez-vous ce que disait saint Denis, la beauté incréée, selon les dispositions personnelles de chacun, communique aux hommes sa lumière et par un mystère divin les refait au modèle de sa souveraine et immuable perfection. Voilà la fonction de la hiérarchie, de refaire au modèle de la souveraine et immuable perfection de Dieu. Et vous aurez remarqué ce que dit saint Denis, selon les dispositions personnelles de chacun. C'est-à-dire que chaque personne va se trouver dans une situation différente. Et la hiérarchie n'a pas pour fonction de mettre tout le monde dans des situations identiques, mais en profitant de cette richesse des différences voulues par Dieu, d'obtenir la vertu chrétienne dans l'Église et dans la chrétienté. Et avant de passer à la suite, je voudrais vous faire une citation de Saint-Pierre que je vous ai déjà très souvent faite. Il s'adresse à tous les chrétiens. « Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Autrement dit, les chrétiens individuels, particuliers, sont d'une certaine manière membres de la hiérarchie, puisque vous vous rappelez peut-être que dimanche dernier, je vous ai cité saint Denis qui dit que la hiérarchie est un ordre. Les supérieurs y tiennent évidemment une place plus importante que les inférieurs, mais les inférieurs participent à cet ordre, et je vous ai expliqué la dernière fois qu'ils n'y participaient pas de façon passive, mais de façon active. Et étant donné la diversité des situations, il n'est pas rare que celui qui est inférieur sous un certain rapport soit supérieur sous un autre rapport. Première partie du sermon, la responsabilité va avec la liberté, c'est le fait de se conduire soi-même. La hiérarchie doit former des hommes qui se conduisent eux-mêmes. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas dirigés, et encore faut-il bien s'entendre sur la signification de la direction, de ce qu'est une direction, mais ça c'est tout ce que je vous ai expliqué la dernière fois avec la hiérarchie, de reproduire la splendeur de Dieu, donner une perfection, communiquer une perfection. Je ne vous dis donc pas qu'ils ne sont pas dirigés, je dis que cette direction les forme à se conduire eux-mêmes. Évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on entend « direction » aujourd'hui, et justement, le sens moderne de direction est faux. Le critère de cette conduite de soi-même par soi-même, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Je vous rappelle encore une fois que charité, c'est amour de Dieu. Et que lorsqu'on parle de charité au sujet du prochain, c'est une conséquence de l'amour de Dieu, un élément de l'amour de Dieu. Donc le critère de la conduite du chrétien, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, selon le modèle de sa souveraine et immuable perfection de Dieu. Ce que je viens de vous lire de saint Denis. Cela entraîne une très grande responsabilité pour le chrétien, parce que c'est lui qui sera jugé. Son supérieur sera jugé sur la direction qu'il lui aura donnée, c'est-à-dire la transmission qu'il aura faite des perfections divines, mais l'inférieur sera jugé sur la conduite qu'il aura lui-même donnée à sa propre vie. C'est-à-dire que la loi ne suffit pas pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Nous allons voir un peu après ce qu'il en est de la loi. C'est trop facile de dire « j'obéis, donc tout est en ordre ». Non, j'obéis et donc tout n'est pas en ordre. Mon obéissance, si elle est droite, est en ordre, mais l'obéissance ne suffit pas pour conduire toute la vie. Choisir tel ou tel conjoint pour fonder un foyer, ce n'est rarement objet d'obéissance, et cela engage lourdement la conduite de la vie. Se faire ou non religieux dans tel ou tel ordre, cela ne relève pas de l'obéissance. Mais cela relève de l'amour de Dieu qui exige que on aime Dieu de tout son cœur et non pas à moitié, de toutes ses forces et non pas un peu, de tout son esprit et non pas avec négligence. Pour cela, Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit qui sont une aide supérieure, une sorte de direction supérieure et même plus qu'une direction, parce que cela crée une intimité entre Dieu et le chrétien. Cela donne une direction, bien sûr, cela lui donne une direction, mais en permettant au chrétien d'avoir un seul cœur et un seul esprit avec Dieu. L'exercice de cette liberté chrétienne, rappelée par saint Paul, « Vous n'êtes plus des esclaves, mais des hommes libres », l'exercice de cette liberté chrétienne se fait par la vertu de prudence. Je ne vais pas insister sur la vertu de prudence aujourd'hui, j'ai déjà fait un sermon, et même probablement plusieurs, il vous est facile de les retrouver. La prudence, vertu mal comprise, qu'on prend souvent pour la vertu qui ne prend pas de risques, qui attend, ce qui est le propre de la circonspection, mais la circonspection n'est pas la prudence. Non, la vertu de prudence est une vertu énergique qui nous fait prendre les bons moyens pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Deuxième partie du sermon, la fonction de la loi. Comment les supérieurs hiérarchiques dirigent-ils ? Ils dirigent par des lois. Ou bien ils appliquent des lois, ce qui est pareil. Si un policier vous donne l'ordre de ne pas garer votre voiture à tel endroit, il ne fait qu'appliquer la loi. Bien sûr, il vous donne un ordre personnel, strictement personnel, auquel vous êtes tenu de vous soumettre, mais cet ordre n'est que l'application d'une loi générale. La fonction de la loi est donc la même que celle de la hiérarchie. Elle doit favoriser l'exercice de la vertu et non le supplanter. Nous sommes dans le domaine de l'action, n'est-ce pas ? Quand il s'agit des perfections divines qui doivent enrichir la contemplation de Dieu, il s'agit d'enseignement, évidemment, et non pas de loi. Mais là, nous sommes dans le domaine de l'action, de la vertu, donc, de la volonté, tout ça, cela revient au même. Et là, c'est la loi dont se sert la hiérarchie pour nous diriger. Eh bien, cette loi doit favoriser l'exercice de la vertu et non pas le supplanter. Contrairement à ce qu'on croit, la loi n'est pas faite pour des cas exceptionnels où l'intéressé, le sujet, est déresponsabilisé. La loi ne déresponsabilise pas. Elle n'ôte pas la responsabilité. Elle nourrit la responsabilité personnelle en la favorisant et en favorisant la vertu. Définition de la loi, ordonnance de la raison en vue du bien commun promulguée par celui qui a la charge de la communauté. C'est très riche ça. Ordonnance, cela reprend ce que disait saint Denis, il s'agit d'un ordre. D'un ordre, non pas au sens de commandement, mais un sens de ce qu'il y a avant et après, au-dessus, en dessous, plus parfait, moins parfait, qui donne, qui reçoit. Donc la loi crée ou favorise cet ordre. Elle met un ordre, c'est donc une ordonnance. De la raison, pour ce qu'il s'agit des lois humaines, de la raison éclairée par la foi lorsqu'il s'agit de la hiérarchie chrétienne. La loi n'est pas le fruit d'un arbitraire, elle est le fruit d'une raison, c'est-à-dire d'un raisonnement, c'est-à-dire là encore d'un ordre, c'est-à-dire d'une application des choses supérieures aux choses inférieures. La loi n'est pas un acte de la volonté, elle est un acte de l'intelligence. Retenez bien cela, bien que nous soyons dans l'ordre de l'action, la règle est donnée par l'intelligence. Et la volonté va suivre l'intelligence, va désirer ce que l'intelligence lui montre. Cette loi est en vue du bien commun, je vais vous dire un petit mot sur le bien commun, et elle est promulguée par celui qui a la charge de la communauté. C'est exprès que saint Thomas d'Aquin dit celui qui a la charge de la communauté, parce qu'on ne va pas faire des grandes théories pour savoir qui est le chef, des grandes théories juridiques déconnectées de la réalité. Saint Thomas est très réaliste, il y a quelqu'un qui est responsable de la communauté, qui en a la charge, et il promulgue des lois. J'insiste dessus parce que, voyez, c'est ce qui permet à Mgr Lefebvre, c'est ce qui a permis à Mgr Lefebvre, non pas vraiment de promulguer des lois, encore que, mais de donner une direction aux fidèles traditionnalistes, parce qu'il avait, en raison des circonstances, charge du maintien de la tradition. Il avait charge de ceux qui lui faisaient confiance. Bien, qu'est-ce que le bien commun, puisque la loi tourne autour du bien commun? Commençons par la fausse notion du bien commun qui est la plus répandue aujourd'hui. Le bien commun est considéré aujourd'hui comme le bien d'une entité supérieure, qu'on appelle l'État ou l'Église, au service de qui le chef a le droit de mettre les individus. Donc, prenez l'exemple des intérêts de l'État, ou des supposés intérêts de l'État. L'État fait du commerce, l'État fait la guerre, l'État se hausse au premier rang, ou plutôt essaye de se hausser au premier rang mondial. Ce bien de l'État, ce bien supposé de l'État, n'est pas le bien des particuliers, c'est un bien qui leur est supérieur, supposément supérieur, qu'on appelle le bien commun, et le chef a le droit de mettre tous les particuliers au service de ce bien commun, et il a le droit d'exiger qu'il fasse telle production, c'est les plans quinquennaux, il a le droit de taxer leur activité commerciale, il a le droit de leur prendre leur argent, et puis pour que ça paraisse quand même un bien commun, il redistribue une part de cet argent, par exemple dans l'assurance sociale, l'assurance maladie, les subventions aux associations, etc. Cela n'a rien d'un bien commun, c'est le bien particulier d'une entité supérieure. Le problème, c'est que cette entité n'existe pas, elle est monstrueuse. Il n'a jamais été voulu par Dieu une telle entité qui ait le droit d'écraser les hommes. Le psaume 8, je crois, mais je suis un peu fâché avec les numéros, nous rappelle la grandeur de l'homme. Elle nous le rappelle à propos de l'incarnation. Comment se fait-il que l'homme soit si élevé pour que Dieu ait daigné envoyer son Fils se faire homme et que l'homme soit ainsi considéré presque à l'égal des anges? Alors on voit mal une entité, quelle qu'elle soit, qui aurait le droit de réduire les hommes en esclavage, en demi-esclavage, en 10% d'esclaves, que sais-je, mais en tout cas en esclave. Non, la vraie notion de bien commun, c'est la vertu des chrétiens nourrie par la hiérarchie. Il n'y a pas de différence entre le bien des chrétiens et le bien de l'Église, entre le bien des particuliers et le bien commun. Le bien commun, c'est le bien des particuliers obtenu ensemble. Pourquoi obtenu ensemble? Mais parce que chacun a ses capacités, parce qu'il y a autant de situations différentes qu'il y a de personnes, comme nous le rappelait saint Denis. Alors je vous donne des exemples de lois. Par exemple, les conditions pour être parrain au baptême, parce qu'un bon parrain favorise un bon filleul. tandis qu'un mauvais parrain risque de faire dévier le filleul. Les empêchements de mariage, notamment l'empêchement de disparité de culte qui interdit à un chrétien baptisé d'épouser un non-baptisé parce que c'est beaucoup trop dangereux pour la foi de celui qui est chrétien et pour les enfants. De même, il n'est pas permis pour un catholique d'épouser un protestant, même s'il est baptisé, parce que c'est trop dangereux également. Vous avez des lois qui s'adressent aux laïcs, mais vous avez beaucoup de lois qui s'adressent aux clercs, c'est-à-dire aux membres de la hiérarchie, pour qu'ils exercent bien la fonction que Dieu a confiée à la hiérarchie. Par exemple, les prêtres doivent se confesser régulièrement, tous les 15 jours, ils doivent méditer chaque jour, ils doivent dire le bréviaire, etc., etc. Voilà des lois qui obligent le prêtre, enfin qui aident le prêtre à être saint pour sanctifier son peuple. Vous voyez bien ici que la loi n'est pas un étouffoir de la liberté, elle n'est pas un acte qui serait légitime en écrasant la liberté, elle n'est pas une diminution légitime de la liberté, elle est une nourriture de la liberté. Lorsque la loi, c'est-à-dire la hiérarchie, interdit à un bon chrétien d'épouser une païenne, le monde moderne crie à la diminution de la liberté, mais nous, nous savons bien que c'est un acte qui favorise la liberté chrétienne, c'est-à-dire la vertu de prudence, c'est-à-dire la charité. Un cas particulier qu'il faut que je vous traite avant de terminer ce sermon, le cas particulier du pouvoir dominatif. Définition, c'est un pouvoir sur la volonté de l'inférieur. Si c'est un pouvoir sur la volonté, c'est un pouvoir qui diminue la liberté. Ah, alors y a-t-il contradiction? Deux cas se présentent d'exercice du pouvoir dominatif. Tout d'abord sur les mineurs. Le père remplace complètement la raison de l'enfant qui est en dessous de l'âge de raison. Eh ben oui, il faut bien qu'il y ait une raison qui le guide, comme cela ne peut pas être celle de l'enfant, puisqu'il n'a pas l'âge de raison, c'est celle du père. Puis, ce pouvoir dominatif se maintient dans la mesure où, après l'âge de raison, l'enfant ne sait pas encore se diriger, mais il diminue en fonction justement de ce que l'enfant grandissant sait se prendre en main soi-même. Et je vous ai fait un sermon sur les différents âges de la majorité. Le pouvoir paternel doit respecter le contact de l'enfant dans la communion, son contact avec Dieu. Le père n'a pas le pouvoir d'empêcher un enfant de communier. Si un enfant qui aurait fait un péché mortel ouvertement, ça oui. Il a même le pouvoir, dans ce cas-là, de lui commander d'aller se confesser. Ce pouvoir dominatif sur l'enfant a pour but justement de rendre l'enfant libre, c'est-à-dire responsable de ses actes, c'est-à-dire de former un être autonome qui à son tour deviendra adulte. Et puis, il y a le cas tout à fait particulier des religieux. Le religieux se décharge volontairement de l'exercice inférieur de sa liberté pour favoriser l'exercice supérieur. Il délègue une fois pour toutes à son supérieur un certain nombre de décisions de manière à être plus libre pour aimer Dieu. Déjà par la pauvreté, il se décharge de tous les soucis matériels. Par la chasteté, il se décharge de tous les soucis de famille. Et je pense, mes bien chers frères, que vous comprenez sans trop de difficulté que la chasteté et la pauvreté ne sont pas un poids pour un religieux, mais une libération. Un poids peut-être pour notre nature blessée, mais une libération justement, parce que cela lui supprime des attraits vers le mal et la libère pour monter vers le haut. Eh bien, il en va de même pour l'obéissance. Le religieux n'a plus à décider à quelle heure il se lève, à quelle heure il prend son repas, quels sont les jours où il jeûne, le minimum de prière qui lui convient. Tout cela est décidé par le supérieur ou par la règle, mais c'est pareil. Et cela le libère d'abord en matant ses passions, en dominant ses passions, c'est-à-dire que cela le libère de la paresse, quand il sait à quelle heure il doit se lever, qu'il ne peut pas faire autrement. Cela le libère de la paresse spirituelle, puisque les prières au minimum lui sont fixées, etc., etc. Et cela lui donne la possibilité d'exercer une vertu plus parfaite, supérieure, plus spirituelle encore. Et vous voyez qu'il y a là simplement un cas particulier, mais qui ne s'oppose pas à ce que je vous ai dit sur le bien commun, parce que le bien commun, c'est d'aimer Dieu. Et le religieux est un parfait chrétien qui aime Dieu avec tous les autres chrétiens, sauf que celui-ci est dans une situation plus particulière, comme disait saint Denis. Il a des qualités qui lui ont été données par Dieu, sachant que d'autres qualités ont été données à d'autres. Et il aime Dieu en compagnie des pères de famille qui ne sont pas religieux, en compagnie des rois qui ne sont pas religieux, en compagnie de tous les autres chrétiens. Ils sont même, grâce à cette liberté qu'ils ont acquise en remettant leur liberté entre les mains du supérieur, leur liberté inférieure, ils sont même des moteurs de la vie chrétienne. Conclusion, en vous tenant ce discours, je restaure moi-même à ma place la défaillance de la hiérarchie moderne. D'abord, j'exerce à ma place la transmission qui va de Dieu à l'évêque, aux prêtres et aux fidèles. Schéma un peu simpliste, mais enfin qui est parfaitement vrai. Je contribue à restaurer le vrai caractère de la hiérarchie pour suppléer aux défaillances de la hiérarchie moderne qui ne vous transmet plus cela. Et c'est pourquoi vous écoutez mes sermons. Et je vous apprends à votre tour à prendre votre place dans cette race royale, à prendre votre place après avoir été illuminé par les splendeurs de Dieu, illuminer à votre tour ceux dont vous avez la charge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.